Merci parce que tu es venu jusque nous pour nous sauver, pour nous donner cette vie éternelle, Seigneur, pour ce privilège d'être tes enfants. Oui, Abba Père, nous voulons invoquer ton Saint-Nom en ce moment pour, Seigneur, pour puisque tu peux nous aider pour étudier ta parole, pour connaître les vérités sur toi, pour connaître ta personne. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, reste avec nous durant ces quelques minutes que nous allons essayer de voir Jésus-Christ dans ta parole. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, je pense que ce soir, je ne vais rien vous apprendre. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais je suis sûr que nous allons apprendre ensemble. J'ai l'intention d'étudier un livre, donc nous allons prendre le livre d'Exode pour étudier continuellement. Nous allons glaner dans le livre d'Exode pour voir les vérités qui est dans le livre, dans ce livre. Et plutôt, nous allons voir ce soir comme l'introduction pour ce livre. Il y a quelques semaines que nous avons voyagé ensemble avec le Seigneur et ses deux disciples sur le chemin solitaire qui mène vers l'Emmaüs. Il est écrit en Luc 24, 27, des choses touchant le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la parole, nous lisons, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, et toutes les Écritures, les choses qui le regardent, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors, j'espère que nous aurons cette même expérience ce soir quand nous allons traverser, pas uniquement ce soir, quand nous allons traverser, nous allons faire route avec ce livre. Le livre d'Exode renferme beaucoup de ces choses qui regardent le Seigneur. C'est une partie de Sainte Écriture particulièrement riche en instructions typiques. C'est une raison, et c'est une raison suffisante pour le rendre attrayante à ceux qui aiment le Seigneur. Le livre d'Exode est parti de cinq livres qu'on appelle la Pentateuque. Genèse, Exode, vous pouvez participer aussi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. La Genèse illustre le principe de l'élection de la nation d'Israël. Et l'Exode, celui de sa libération. Donc, le livre d'Exode qui parle de la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Le Lévitique, celui de sa sanctification. Le Seigneur, il connaît, il appelle le sien. Après, il sanctifie, puisqu'il peut être ses peuples. Après, les nombres de sa direction. Le Seigneur, il montre la direction, dans quelle direction il devrait partir en chemin avec lui. Et enfin, le Deutéronome de son instruction. Comment vivre la vie chrétienne. Avant de commencer à lire un livre de la Bible, ce serait utile pour toutes, je ne sais pas dans toutes les Bibles, parfois dans les Bibles, il y a les introductions, comme nous allons faire ce soir, et c'est très utile à connaître des choses sur l'auteur, et c'est quoi le thème de ce livre, qu'est-ce qu'il parle, le sujet, il aborde, et dans quelle époque le livre a été écrit, par qui il a été écrit, parce que, par exemple, dans l'épître de Paul, c'est bien de connaître qui a écrit cet épître. Qui a écrit à qui. Donc quand on sait que c'est Paul qui a écrit, on peut sentir même le cœur de Paul battre à travers de ses lettres. On sent ce qu'il veut dire et c'est très intéressant. Et donc, et tout d'abord, je pense que quand on ouvre un livre de la Bible, il faut chercher Jésus-Christ. Il est présent dans toute l'écriture. Toute l'écriture, ça parle de Jésus-Christ. Donc il faut chercher Jésus-Christ dans chaque livre, dans chaque chapitre, chaque page de la Bible. Donc avant de commencer à lire un livre de la Bible, ce serait utile pour toute personne qui aimerait étudier le livre de poser quelques questions. Et souvent, il y a des mots-questions. Vous connaissez Rudyard Kipling, un auteur anglais qui a écrit le livre de la jungle. Il a dit, « Je garde 6 fidèles serviteurs. Ils m'ont enseigné tout ce que je sais. Leurs noms sont quoi et où, quand, comment, pourquoi et qui ?» Chaque fois, avant de commencer un livre, si on peut poser ces questions, quoi, où, quand, comment, pourquoi et qui? Donc, quelqu'un sait que ça veut dire quoi, Exode? Le sens de ce livre? Pardon? Voyage? Oui? Sortie. Voilà, c'est sorti. C'est sorti. Et après... dans les traducteurs originels, hein, le 70, ils ont dit le premier verset, prenez Exode, le premier chapitre. Le livre commence, voici le nom des fils d'Israël. Donc ça, c'était aussi le nom en hébreu. Apparemment, ça, c'était la coutume de nommer un livre par la première phrase qui commence. Mais Exode, ça veut dire sortie. Ou départ. On peut dire aussi départ. On connaît quelque chose sur l'auteur qui a écrit ce livre? Moïse. Et en général, on croit que Moïse il a écrit le Pentateuque, les premiers cinq livres, et d'autres livres aussi, comme Job, il est attribué à Moïse, et quelques psaumes. C'est Moïse, l'auteur de ce livre d'Exode. Bien que toute écriture est inspirée de Dieu, il serait utile pour connaître la personne que Dieu a utilisée pour écrire ces 66 livres. On connaît que c'est le Saint-Esprit qui a écrit ces livres. Mais c'est bien de connaître qui a tenu la plume pour écrire ces livres. Dieu a utilisé les hommes pour faire ce travail. Le livre Exode lui-même indique par 3 fois Moïse comme son auteur. On trouve la preuve dans le livre même. Et Exode 17, 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et encore à chapitre 24, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, chapitre 34, verset 27, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Donc, c'est Moïse qui a écrit ce livre. La rédaction par ce témoin des événements relatés est confirmée par la connaissance approfondie des coutumes égyptiennes et de la géographie de désert du Sinaï. Mais on ne peut pas imaginer une autre personne pour écrire ce livre d'Exode, bien que Moïse. Moïse, il était qualifié pour écrire ce livre, pas son éducation en Égypte. Il a eu la meilleure éducation en Égypte et par son expérience. Et il connaît le terrain, il connaît le Sinaï par cœur. Il était égaré dans le désert du Sinaï. Et il connaît l'Égypte aussi. Il connaît le coutume de ce pays. Donc Dieu, c'est merveilleux de savoir comment Dieu, il a fait laisser Moïse grandir dans le palais de Pharaon. Mm-hmm. Après, il l'amène en Sinaï, dans le désert. Il l'occupait de moutons. Après 40 ans, les dernières 40 ans, Moïse l'a vécu 120 ans. Le premier 40 ans dans le palais de Pharaon, le deuxième 40 ans dans le désert, où il a appris beaucoup de choses. Et le prochain 40 ans, le dernier 40 ans, Dieu l'a vraiment utilisé puissamment, Moïse. Et c'est ce le serviteur de Dieu, Moïse, qui a écrit ce livre. Moïse a probablement écrit ce livre pour les générations ultérieures, afin qu'elles connaissent les événements fondateurs de leur nation. Et bien sûr, c'est pour nous. Et est-ce qu'on peut imaginer que si le livre d'Exode n'était pas là, on ne peut pas connaître beaucoup de choses? Et je pose la question aujourd'hui, mais nous qui connaissons les choses, est-ce que nous transmettons cette information? Ce que Dieu l'a fait pour son peuple, à nos prochaines générations. Et j'aime bien ce verset dans l'Exode, quand on parle de la fête de Pâques. Et il dit que quand tes enfants, ils regardent, ils demandent, qu'est-ce que ça veut dire ces choses? Pourquoi vous faites ça? Et tu devrais enseigner tes enfants. Pourquoi et comment Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage? Et nous avons cette responsabilité de transmettre ce que Dieu il est en train de faire dans notre vie. Et c'est notre responsabilité personnelle et aussi notre responsabilité en tant que l'Église de Christ. Nous devrions passer cette information. Nous ne pouvons pas imaginer notre Bible sans le livre d'Exode ou de Pentateuque. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de la véritable valeur de la parole de Dieu. Mais nous avons toutes ces informations, mais si nous connaissons la vraie valeur de la parole de Dieu, nous allons dévorer la parole de Dieu. Mais je ne pense pas que nous utilisons autant. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de la véritable valeur de la parole de Dieu. Nous devrions remercier le Seigneur pour sa parole. Et pour remercier le Seigneur pour sa parole, nous devrions étudier profondément la parole de Dieu. Et une autre question, quand? Et quand est-ce que Moïse l'a écrit? Ce livre fut sans doute rédigé au désert durant l'époque des Nombres, c'est-à-dire vers le milieu du 15e siècle avant Jésus-Christ. Le 15e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous savez que ça commence là, mais après ça devient zéro. Et après encore, nous sommes à 2019. Donc 15e siècle avant Jésus-Christ. D'après 1 Roi 6.1, l'Exode eut lieu 480 ans avant la quatrième année de Salomon. Ça marquait précisément 480 ans avant la quatrième année de règne de Salomon. C'est-à-dire l'année, il note 966, ce qui nous ramène à 1446. Le livre couvre une période de 145 ans. Le livre d'Exode couvre une période de 145 ans, allant de la mort de Joseph à l'érection de tabernacle dans le désert. Et après, si nous devons poser la question où, ça passe où, l'événement raconté se situe. Le premier 14 chapitres, ça parle l'histoire en Égypte. Égypte, ce qui se passe en Égypte avec les enfants d'Israël. Ça commence avec la naissance de Moïse. Et jusqu'à le 14e chapitre, ça parle tout ce qui se passe en Égypte. Et la deuxième partie, le chapitre 15 à 18, ça sur le trajet d'Égypte au Sinaï. Ça parle du trajet de leur trajet d'Égypte au Sinaï. Et après, à partir de 40 chapitres, hein, je trouvais qu'en Genèse, le premier livre, il y a 50 chapitres. En Exode, c'est 40. Mais bien sûr, le prochain livre, ça ne contient pas 30. Mais donc, le prochain, de 19 à 40, ça passe aux environs de Sinaï, dans le désert de Sinaï. Donc, ça, c'est le lieu. où ça passe. Et après, si on parle, qu'est-ce que ça passe? Quoi? Deux événements fondamentaux. La sortie d'Égypte et le don de la loi. Et la sortie d'Égypte, ça parle de la sortie de l'Égypte et le don de la loi. Significatif pour toute l'histoire de judéo-chrétienne. En eux, Dieu s'est révélé comme le libérateur et le guide de son peuple. Ce qui s'est passé en Égypte souligne à la fois sa grâce envers le sien et sa colère envers ceux qui lui résistent. Ça parle des Égyptiens, Pharaon et sa maison. Ils ont résisté à Dieu et il était frappé par la colère de Dieu. Et l'autre côté, ça parle de grâce de Dieu envers ce peuple. Je ne pense pas que les Israélites ils méritaient que Dieu les fait sortir. Ils ont même oublié de Dieu. Quand ils étaient dans l'esclavage en Égypte, ils n'ont même pas pensé à Dieu. Ils ont oublié tout. Et la seconde partie du livre nous montre à quelles conditions nous pouvons nous approcher de lui. Le livre qui commence par la vision d'un peuple esclave et opprimé se termine par celle de gloire de Dieu révélée au milieu d'une nation libre. Ça commence à l'esclavage et termine avec par celle de gloire de Dieu révélée au milieu d'une nation. D'après 1 Corinthiens 10, le premier 6 versets et Romains 15, 4, ces choses sont écrites pour notre instruction. Et on devrait d'abord chercher Christ dans les Écritures. N'importe quel livre que vous prenez, il y a Christ. Et le livre d'Exode est rempli de typologies de Christ. On trouve Christ, c'est magnifique. Et je lis de 1 Corinthiens 10, 1 à 6, je vais lire pour vous. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. » Et Romains 15, 4, « Or tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est-à-dire que nous avons parlé d'espérance. Le livre d'Exode contient beaucoup de leçons précieuses. Dieu permet que les siens passent par les épreuves, mais celles-ci contribuent à l'accomplissement de son plan pour eux. Nous savons que le peuple d'Israël était opprimé en Égypte pendant 430 ans, plus de 400 ans. Il était opprimé. Mais imaginons qu'il était bien traité comme ils ont été traités pendant l'époque de Joseph. Et quand même, il était bien traité dans l'époque de Joseph. Quand Joseph il était gouverneur, quand il avait tout pouvoir, tout le pouvoir, et je ne pense pas qu'il était opprimé. Puis, des autres rois ils viennent, ils commencent à opprimer le peuple. C'était misérable. Quand j'étais en train de lire ce passage, je pensais que, on pense que le Holocauste c'était il y a 70 ans, en Europe. Je pense que c'était commencé bien avant en Égypte. Parce que le roi veut exterminer le peuple. Ils ont tout fait. C'est le camp de concentration, c'était en Égypte. Nous connaissons le camp de concentration en Europe, mais ça a bien commencé en Égypte. Et donc, Satan, il voulait détruire le peuple. Et pourquoi? Parce que la promesse de Dieu à Abraham, c'est de ton... oui, je cherche le mot. Oui, de postérité, le Messie va venir. Donc, Satan, il connaît le plan de Dieu, il connaît ce qui t'est révélé. Hein? Il ne connaît pas tout, Il connaissait le plan de Dieu, ce que la promesse de Dieu. Donc il voulait exterminer ce peuple. Il a tout fait. Mais Dieu a permis. Parfois, quand nous passons par la tribulation, quand nous passons par la oppression, quand nous sommes opprimés par le monde, nous demandons pourquoi. Ah, sinon, nous n'allons pas avoir l'envie de quitter l'Égypte. Nous n'aurons pas l'envie d'aller au ciel. Nous n'aurons pas envie d'être avec le Seigneur. Ce peuple, s'il n'était pas opprimé comme il était opprimé, Moïse, il n'aurait pu jamais faire sortir ce peuple d'Égypte. Mais malgré tout cela, c'était difficile de faire sortir ce peuple. Et le plan de Dieu, c'est inconcevable. Le cerveau humain, il ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Et Satan, il l'œuvre pour détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu, il a un plan qui détruit le plan de Satan, qui détruit l'œuvre de Satan. Et il ne peut rien faire. Mais finalement, le peuple peut, ils ont pu sortir de cet esclavage. Si les Israélites n'avaient pas été opprimés en Égypte, ils se seraient assimilés à la population égyptienne et ne seraient jamais retournés à Canaan. Et nous avons cette tendance à assimiler avec le monde. Nous cherchons à être assimilés avec le monde. Nous cherchons à être identifiés avec le monde. Nous cherchons une reconnaissance. Nous voulons que le monde il nous reconnaisse comme des gens normaux. Et nous sommes prêts à sacrifier même notre identité chrétienne pour être assimilés avec le monde. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu il veut que nous sortons de l'Égypte, de l'esclavage, d'esclavage du péché. Pour devenir l'instrument de Dieu, Moïse a dû faire un choix difficile. Actes 7, 23 et Hébreux 11, 24 à 27. Nous n'allons pas lire ça maintenant. Dieu prend son temps pour préparer celui qu'il veut utiliser. Dieu l'a pris le temps. Il a pris 80 ans dans l'histoire de Moïse seulement. Nous allons voir tout cela après, si Dieu nous permet. Et il a pris 80 ans pour former. Et pendant toutes ces années, Moïse il était dans le plan de Dieu. L'expérience de le chapitre 2, 11 à 15, a montré que tout en étant choisi par Dieu, il n'était pas prêt à être son instrument. Dans le chapitre 2, nous voyons que Dieu l'appelle Moïse, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour être un instrument dans la main de Dieu. Le chapitre 12 nous enseigne l'importance de la foi et de l'obéissance pour être sauvé. Mais le livre d'Exode, ça parle de l'œuvre de Dieu pour sauver son peuple. L'œuvre de Dieu pour sauver son peuple. Le chapitre 4 démontre la puissance de Dieu, mais dès le chapitre 15 apparaissent l'ingratitude et l'instabilité du peuple. L'épisode de Veau d'or, chapitre 32, en constitue la démonstration flagrante. Après, on peut demander la question, ça reste encore quoi? On a vu quoi, qui, on a vu beaucoup, mais pourquoi? Le livre témoigne avant tout de l'action de Dieu en faveur de son peuple. Il veut montrer comment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accomplit la promesse faite au patriarche. Genèse 13, 14. Lorsqu'il conclut l'alliance avec lui, comment ses descendants sont devenus une grande nation. 70 personnes sont entrées en Égypte. Quelques 2 à 3 millions en sont sortis. On peut imaginer ça. C'est seulement 60 qui sont entrés en Égypte. Avec Jacob et ses fils, certainement leur famille. Mais parfois, il y a des différences dans le chiffre. Je pense qu'Étienne, il parle de 75 dans Acte 7, je crois. Mais c'est immatériel. Parce que, bon, certains pensent qu'on a ajouté aussi la famille de Joseph. la famille de Joseph et ses enfants, sa femme, ses enfants. Et certains pensent qu'ils sont laissés parce qu'ils ne sont pas entrés avec Israël en Égypte. Donc ça, c'est aucune importance, mais 70 personnes ou 75 personnes qui deviennent 2 à 3 millions dans 400 ans. Et certains pensent que c'est impossible. Si, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu l'a fait. Il n'est pas capable de faire ce miracle. Dieu l'a fait fructifier et multiplier son peuple dans ces 430 ans. Et s'il a été capable de faire sortir Isaac de Sarah qui était stérile, n'est-il pas capable de faire 70 en 2 ou 3 millions? Bien sûr qu'il est. La libération hors d'Égypte est restée pendant toute l'histoire d'Israël la démonstration de la puissance de Dieu et de sa volonté de sauver les siens. La postérité de Jacob constitue une nation théocratique et prête à être organisée. C'est pourquoi Dieu lui transmet la loi, c'est pourquoi Dieu lui révèle la plan du tabernacle. Le peuple de la Nouvelle Alliance trouve dans ce livre beaucoup de symboles qui pointent vers le grand libérateur. Et si nous sommes des enfants de Dieu, si nous cherchons Christ dans ces pages de ce livre, nous allons trouver Jésus-Christ qui est notre libérateur. Et Moïse n'était qu'une préfiguration du Christ. Hébreux 3, le premier 6 versets. On trouve l'agneau pascal dont le sang a sauvé ceux qui obéissaient aux directives divines et dont aucun os ne devrait être brisé. Vous souvenez, dans le 12e chapitre de Exode, à Dieu, il ordonne le peuple qu'il devrait manger la Pâque, la manière qu'il devrait manger, et il ne devrait pas briser les os de cet animal qu'il mangeait. Et ça symbolifie Jésus-Christ. Ses os, ils n'étaient pas brisés. L'agneau de Pâques. Le passage de la mer rouge, représente notre mort et notre résurrection avec Christ. La manne avant goût du pain vivant descendu du ciel, et le rocher frappé dans l'eau des altères. Il y a, pour connaître l'authenticité de ce livre, on trouve beaucoup, beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent le passage du livre d'Exode. Et c'est un livre très, très important. Et peut-être aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps, mais je vais lire après, on a d'autres choses aussi. Aaron, le souverain sacrificateur, le tabernacle, l'image, l'ombre du sanctuaire céleste, avec sa porte, son autel des sacrifices, sa cuve d'airain, la table de la présence, le chandelier, l'autel de parfum et le coffre d'alliance, signe de la présence divine. Les citations indiquées du Nouveau Testament montrent que toutes ces leçons données à l'époque de l'Exode restent actuelles pour nous. Ça parle de Jésus-Christ. Et la question finale, c'est comment? Les 40 chapitres du livre, autant que d'années de l'année, ils sont promenés dans le désert, ils sont errés dans le désert, se sous-divise en trois parties. La première partie, le premier 18 chapitres, c'est l'histoire. La deuxième partie, chapitre 19 à 34, c'est la loi. Et la troisième partie, 35 à 40, c'est le culte. Ce peuple qui sont sortis de l'Égypte, ils ont appris à adorer leur Seigneur. Le mouvement intérieur peut se caractériser par ces trois mots: esclavage, délivrance et organisation. On va lire simplement lire les premiers 12 versets de ce chapitre, le premier chapitre. Le premier 12 versets. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux: Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils nous établissent sur lui des chefs de corvée afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait et accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. » Donc, on voit la main de Dieu, comment il a fait. En fait, le livre d'Exode, ce n'est pas un livre séparé. La continuité, le dernier chapitre de Genèse, la façon que, voici le nom de fils d'Israël, la façon que l'auteur il commence, ça veut dire que c'est la continuité de le dernier verset de Genèse. Et moi j'étais en train de penser à ces 12 personnes, le fils de Jacob. Il était digne d'être mentionné dans la parole de Dieu. Et chacun, il avait... Ils étaient tous... ils n'étaient pas des hommes bien. Ils ont fait mal à leur propre frère. Ils ont fait mal à son père, à leur père. Mais pourtant, Dieu l'a écrit leur nom. Il a fait mentionner leur nom. Qu'aujourd'hui, on peut lire leur nom, connaître leur nom. Et pas seulement ça. Dieu l'a fait écrire leur nom sur le... Éphod, c'est ça? Éphod, oui. Et le 12 pierres, il a fait écrire ces 12 noms. Mais qui sont ces hommes que Dieu peut écrire leur nom, le nom de ces 12 tribus? Mais chaque, il y a un qui a commis un péché avec Tamar, je pense que c'est Tamar, oui, avec sa belle-fille. Non, ils sont tous les pécheurs. Mais Dieu l'a connu de leur esclavage, où il était. Ils sont appelés, il a fait sortir. Il a écrit leur nom dans ce livre d'Exode. Et c'est pareil. Dieu, il fait la grande chose pour nous. Il a fait la grande chose pour nous. Est-ce que nous rendons compte ce privilège d'être les enfants de Dieu? Nous allons clore avec cela. Et Dieu voulant, on va continuer dans cette étude une autre fois. Prions. Seigneur notre Père, grand est ton amour. Seigneur, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions les enfants du diable, Seigneur, nous étions les serviteurs du diable. Seigneur, nous étions ignorants de ton grand plan de salut. Mais Seigneur, tu nous as connus et tu nous as fait sortir de péché et tu nous as fait tes enfants. De privilège de t'appartenir, de pouvoir adresser le Dieu souverain Abba Père. Seigneur, tout cela, ça dépasse notre compréhension. Mais nous croyons sur tes œuvres, ton œuvre de salut. Seigneur, nous croyons que tu as mort sur la croix pour nous et tu nous as sauvés. Tu nous as donné ce salut pour nous, pour cette vie éternelle. Seigneur, nous te rendons gloire et aide-nous à vivre fidèlement en tant que tes enfants, tes serviteurs. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous fait vivre dans ce monde. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.